propose du coup de commencer en disant tous ensemble la prière à Saint Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.
Bonjour à tous. Comme nous le disait notre curé à l'instant, cette conférence est donc dédiée à Saint Joseph, en l'honneur de Saint Joseph et dans le cadre de l'année Saint Joseph. Vous savez que le pape, après les 150 ans de la promulgation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, nous donne une année pour approfondir, pour nous inspirer de cette figure. Et je me disais que le but de cette petite conférence est un peu double. D'une part, c'est nous préparer à cette grande fête de vendredi prochain, Saint-Joseph, et en même temps, de nous encourager sur notre chemin de carême. Vous savez que la fête de Saint-Joseph, sans exception, tombe toutes les années en carême. Alors, historiquement, on ne sait pas très bien pourquoi c'est comme ça, mais pratiquement, on s'en réjouit tous. Et on s'en réjouit tous, pas seulement parce que pendant ce temps de pénitence, la couleur blanche vient mettre un petit peu de joie, pas seulement parce qu'on chante le gloire à Dieu ce jour-là, pas seulement parce qu'on est invité à rompre le jeûne. Vous savez, en plus, cette année, ça tombe un vendredi de carême, donc voilà. Il y a toutes ces raisons pour lesquelles on peut se réjouir, mais je pense aussi que plus profondément, Saint Joseph a quelque chose à nous apprendre sur la manière de vivre notre carême, sur la manière de vivre notre vie chrétienne tout court, et notre carême plus particulièrement, parce que le carême, c'est l'approfondissement de la vie chrétienne. Alors voilà, c'est la Providence qui nous donne ces deux raisons. Et c'est le thème qu'on va approfondir un petit peu maintenant. Ça va être tout simple. Vous savez que le pape François a promulgué cette année et nous a donné une lettre apostolique que vous avez peut-être déjà lue. Elle est assez courte, une dizaine de pages. Je vous encourage vraiment à la lire. Et c'est ça qu'on va faire ensemble. Ça va être aller à la suite du pape François, simplement... Voilà, reprendre les points qu'il développe. Alors, il nous parle de Saint Joseph selon sept points, sept petites facettes de sa personne. Et je me disais que pour que cette conférence porte tout son fruit, on pourrait se demander qu'est-ce que chacun de ces sept points que je vais aborder maintenant a à me dire personnellement. Pour moi, qu'est-ce que toutes ces facettes de Saint Joseph veulent me dire à moi personnellement ? Voilà. Et c'est peut-être ça le premier enjeu de cette conférence, c'est de nous rendre la figure de Joseph concrète, incarnée. Vous voyez, il me semble qu'on a trop souvent la tendance, alors je parle peut-être que pour moi, mais on a peut-être cette tendance à voir Saint Joseph comme une statue bien droite, vous voyez, un petit peu décolorée ou incolore, avec un lys à la main. Et du coup, il me semble qu'on a besoin de purifier notre imaginaire sur Saint Joseph. Saint Joseph, c'était tout sauf quelqu'un de figé, de coincé, de doré, vous voyez, de poussiéreux. Non, c'était Saint Joseph, c'est le réalisme de l'accueil du Seigneur. Donc, si cette conférence peut nous aider à avoir voilà, un lien plus concret avec Saint Joseph et à le découvrir, eh bien, on aura gagné notre dimanche après-midi. Alors, un petit mot sur le titre de cette lettre du pape François. Elle s'intitule « Patris Cordae », donc c'est en latin « avec un cœur de père ». Et le pape commence comme ça, il commence par remarquer que dans tous les évangiles, dans les quatre évangiles, Jésus est appelé le fils de Joseph. Alors, si Jésus est le fils de Joseph, c'est que Joseph est le père de Jésus. « Avec un cœur de père ». Et c'est ça qui va un petit peu décliner dans toute sa lettre, de quelle manière Joseph a été père. Il a été père d'une manière très particulière. Voilà, qu'est-ce qu'il en est ? Et c'est ça qui va nous présenter et nous donner comme objet de méditation. Et avant cela encore, il commence par nous rappeler que savons-nous de Joseph ? C'est quand même la première question quand on parle de quelqu'un en se disant, mais alors qui est-il ? Que savons-nous de lui ? Alors je vais reprendre ici très brièvement tout ce que nous savons de lui. Vous allez voir qu'on sait très peu de choses et en même temps on en sait beaucoup. Saint Joseph était un charpentier, on le sait selon Saint Luc. On sait aussi qu'il était promis en mariage à la Vierge Marie. Saint Luc nous dit que c'était un homme juste, on reviendra sur ça, un homme juste qui a eu en tout cas 4 songes. Par 4 fois, il a eu des songes. On sait qu'il a vu naître le Messie à Bethléem, qu'il a vu la visite des bergers, qu'il a vu la visite des mages aussi. Le 8e jour, c'est lui qui donna son nom à Jésus. Le 40e jour après la naissance de Jésus, il partit avec au temple pour présenter le Seigneur. C'est là qu'il rencontra Siméon et Anne. Ensuite, il partit en Égypte. Puis, au retour d'Égypte, de cet exil, il a vécu à Nazareth, dans ce petit village inconnu de Nazareth. On le retrouve encore une dernière fois dans l'Évangile, lorsque Jésus a 12 ans au temple, vous vous souvenez, et qu'il reste auprès des docteurs de la loi. Donc là, on nous parle encore de Joseph. Mais c'est tout. Vous voyez, c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois très peu. On n'a par exemple aucune parole de Joseph. Pour la Vierge Marie dans l'Évangile, on a 7 paroles de la Vierge Marie qui nous sont conservées, mais pour Joseph, on n'en a aucune. Vous voyez, ce silence de Saint Joseph, je pense que c'est déjà un enseignement. Il n'était sans doute pas muet, on nous l'aurait dit sinon. Mais on n'a aucune de ses paroles. Et ce silence-là, ce silence habité, respectueux, est déjà un enseignement parce que ça nous montre qu'il était accueillant à la parole. Jésus, c'est le Verbe éternel, la parole éternelle, et Joseph est celui qui l'accueille. Donc voilà, première chose, c'est le silence de Joseph. On a à s'en inspirer, on a à lui demander de nous apprendre un vrai silence, un vrai accueil de la parole. Alors, je viens de vous dire qu'on n'a aucune parole de Joseph. C'est pas tout à fait juste. Peut-être que vous allez me contredire tout de suite. On a au moins un mot de Saint Joseph. On est sûr qu'il l'a prononcé. Peut-être que je devrais vous interroger. Le mot que Saint Joseph a prononcé dans par les évangiles, c'est Jésus. Parce qu'il donna son nom à Jésus. Alors, vous pensez que, en tout cas, c'est sûr. Il a prononcé le nom de Jésus. Et ça aussi, c'est un grand enseignement. Demander à Saint Joseph de nous apprendre combien de fois par jour, combien de fois dans notre vie on dit le nom de Jésus, ce nom saint, sacré, voilà, qui nous apprenne à le dire d'une manière fructueuse pour nous, respectueuse pour le Seigneur. Donc, on sait très peu de choses sur Saint Joseph, mais le Saint-Père, dans sa lettre, note qu'après la Vierge Marie, aucun saint n'a occupé autant de place dans le magistère pontifical. Alors, je fais un petit historique. Pie IX l'a déclaré patron de l'Église catholique, puis Pie XII, patron des travailleurs, Jean-Paul II, gardien du Rédempteur, et enfin, d'une manière générale, on l'invoque comme patron de la bonne mort. Patron de la bonne mort. Donc c'est à la fois un grand inconnu et à la fois quelqu'un de très proche. Et c'est ça qui fait, j'ai envie de dire, tout son charme. Le pape François le note très bien en disant que Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent en fait un rôle inégalé dans l'histoire du salut. Saint Joseph, c'est ce grand homme caché, mais qui a un rôle absolument fondamental, crucial dans l'histoire du salut. Voilà. Alors je vous propose maintenant de prendre ces 7 petites facettes de la personne de Joseph que présente le pape, que vous trouvez aussi au pied de l'autel. Alors, la première facette, c'est père aimé. Joseph a été un père aimé. Et le Saint-Père de nous dire, en raison de son rôle dans l'histoire du salut, Saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien, comme le démontre le fait que dans le monde entier, de nombreuses églises lui sont dédiées. Plusieurs instituts religieux, confréries, groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom. Voilà, c'est vrai à Brest aussi, Saint-Joseph du Pilier Rouge. Saint-Joseph est très aimé. Et je trouve remarquable cet angle d'approche du pape. Vous voyez, moi, si on m'avait demandé de parler de Saint-Joseph, je ne suis pas sûre que j'aurais commencé comme le pape. Première chose qu'il nous dit, c'est que Joseph, on l'aime. Saint-Joseph est un père aimé. Et c'est bon de se le dire. C'est bon de se dire que notre première approche avec Saint Joseph, c'est qu'on l'aime. Et il continue un petit peu dans le même ordre d'idée en nous disant que la confiance du peuple saint, donc de l'Église, en Saint Joseph, se résume dans une expression. Alors je ne sais pas si vous voyez à quoi il fait allusion, quelle est la devise ou le mot d'ordre qui résume un peu traditionnellement le lien à Joseph? C'est une parole de l'Écriture, de l'Ancien Testament, de la Genèse, qu'on a coutume de donner en latin, « Ite ad Joseph », « Allez à Joseph ». La petite devise, « Allez à Joseph ». Et c'est une parole, donc, comme je le dis, tirée du livre de la Genèse, mais qui s'adresse à un autre Joseph, le Joseph de l'Ancien Testament, de la Genèse, si vous vous souvenez, qui a été vendu par ses frères et qui ensuite est devenu vice-roi d'Égypte, et à qui le pharaon disait « Allez à Joseph ». Allez, Joseph. Et donc ça, dans le même ordrier, vous voyez, Joseph est un père aimé, et il est un père chez qui on va. Le premier réflexe, notre premier lien à Joseph, ça doit être le fait d'aller vers lui, aller à Joseph. On fait sa connaissance, on entre de plus en plus, on le rencontre, en allant le trouver, en le fréquentant. Et pour nous, c'est un grand enseignement, vous voyez, on ne commence pas par parler de Joseph par des grandes considérations théologiques, mais en l'aimant, en allant le trouver, en lui confiant nos causes, en lui parlant de nos soucis, etc. La comparaison est un peu triviale, mais c'est comme quand on va en vélo. Je peux vous faire une conférence sur apprendre à aller en vélo. Tant que vous n'y êtes pas allé, que vous n'avez pas essayé, ça ne marchera pas. Saint Joseph, c'est un peu pareil. Saint Joseph, on lui parle de notre vie, on apprend à le connaître, mais c'est en allant à Joseph que nous rencontrerons sa personne. Joseph, un père aimé. La deuxième facette que le pape François nous propose, c'est Joseph, un père dans la tendresse. Père dans la tendresse. Et le Saint-Père nous dit, Joseph a vu grandir Jésus, jour après jour, en sagesse, en taille, en grâce, devant Dieu et devant les hommes, si bien que Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Ça peut sembler tout bête de dire ça, mais en fait c'est bouleversant. Et parce que Jésus est Dieu, et il a vu en Joseph, qui était un homme, uniquement un homme, la tendresse de Dieu. C'est pas rien. C'est la confiance que le Seigneur a fait à Saint Joseph. Il a permis que son Fils éternel voit en Saint Joseph la tendresse de Dieu. On reprendra ça lors du dernier point. Mais cette deuxième petite facette est surtout l'occasion pour le pape de faire un lien entre la tendresse et la faiblesse. Alors, c'est deux choses qui peuvent être un petit peu opposées, mais le pape nous dit « L'histoire du salut s'accomplit à travers nos faiblesses. » Nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu'en réalité, la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. Et puis il cite saint Paul, « Ma grâce te suffit parce que ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Si telle est la perspective de l'économie du salut, dit le pape, alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. C'est des mots extraordinaires. Nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. Mais pourquoi est-ce que le pape nous parle de Saint Joseph comme cet homme tendre qui a su accueillir sa faiblesse? Alors là, c'est moi qui extrapole un petit peu ce que dit le pape, mais je pense qu'il serait d'accord avec ce que je dis. C'est parce que, vous voyez, Saint Joseph, tout saint qu'il était, il était quand même le moins saint de la Sainte Famille. Manque de bol, hein. Jésus était Dieu, la Vierge Marie était immaculée, et Saint Joseph, il était très saint, il était sans doute un très très grand saint, mais il était quand même pécheur. Et il devait le savoir, il n'avait pas une connaissance nette que la Vierge Marie était immaculée, mais enfin, il devait quand même se rendre compte que s'il y avait ne serait-ce qu'un tout petit peu d'eau dans le gaz, dans la Sainte Famille, ça venait de lui. C'était lui le pécheur, c'était lui qui était le plus faible. Et vous voyez, la sainteté de Joseph, il s'en est pas effrayé. J'ai envie de dire, il n'a même pas été dérangé par cela. Mais il a compris que le Seigneur lui-même n'était pas dérangé par son état de pécheur, par sa faiblesse, mais qu'il s'en servait. il a compris que le Seigneur n'était pas dérangé par son péché. Alors comprenez bien ce que je vous dis, le Seigneur ne voulait pas bien sûr le péché, mais il a compris que sa faiblesse n'était pas un obstacle à l'action de Dieu, et que même au contraire, c'était l'occasion pour Dieu de déployer toute sa puissance. Ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Voilà, c'est donc Saint Joseph qui nous apprend à accueillir notre faiblesse comme un lieu où le Seigneur peut déployer sa puissance. C'est pour ça qu'il faut accueillir notre faiblesse avec tendresse. Père dans la tendresse. Le troisième aspect, la troisième petite facette de la figure de Joseph que nous propose le pape, c'est Père dans l'obéissance. Je vous disais en introduction que Saint Joseph a eu des songes. Saint Joseph a eu des songes alors que la Vierge Marie a eu l'apparition de l'ange à l'Annonciation. Mais chacun de ces quatre songes de Saint Joseph nous montre quelque chose de son obéissance. C'est ce qu'on va voir maintenant. D'ailleurs, si vous aimez les petits défis théologiques, vous pourrez faire la comparaison entre le Joseph de l'Ancien Testament et Saint Joseph et voir qu'il y a plusieurs parallèles, et notamment le fait qu'ils ont des songes. Tous les deux sont des Joseph qui ont des songes, l'homme aux songes. Alors, le premier songe qu'a eu Saint Joseph, c'était lorsqu'il était très préoccupé par la grossesse incompréhensible de la Vierge Marie. Il se demandait ce qu'il devait faire, est-ce qu'il fallait la répudier publiquement ou la renvoyer en secret. Non, je vous demande pardon, c'est pas ça. Justement, pour ne pas l'accuser publiquement, il voulait la renvoyer en secret. Et c'est alors que l'ange lui apparaît, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Et que fait Joseph ? Lorsqu'il se réveilla, nous dit l'Évangile, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Joseph est celui qui obéit immédiatement. Il n'attend pas, il ne réfléchit pas, il obéit. Lorsqu'il se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait dit. Et le Saint-Père commente en nous montrant que l'obéissance lui permet de surmonter un drame et de sauver la Vierge Marie. Vous voyez, l'obéissance de Joseph nous montre qu'il avait tout avantage à obéir. Et pour nous, c'est un enseignement dans ce sens que l'obéissance, c'est bon. Et c'est bon de nous le rappeler. On a malheureusement trop souvent un petit pantin qui nous dit « L'obéissance, c'est pour les faibles, c'est pour les enfants, c'est pour les losers. » Non, l'obéissance, c'est bon. Et Joseph l'a compris. Il a compris qu'en obéissant à Dieu, il sauvait la Vierge Marie, il sauvait des vies, et qu'il faisait ce qui était bon pour lui. Premier songe. Deuxième songe de Joseph. Lorsqu'il lui demandait de prendre l'enfant Jésus, sa mère, et de partir en Égypte. Il se leva dans la nuit, prit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Encore une fois, l'obéissance lui permet de sauver la vie du Fils de Dieu. Troisième songe, c'est pour le retour d'Égypte, et là encore, sans hésiter, il obéit. Il se leva, prit l'enfant et s'en retourna dans le pays d'Israël. Je pense qu'on peut demander à Saint Joseph cette obéissance prompte et confiante. Vous voyez, si on obéit, c'est parce qu'on a confiance. On n'obéit pas à quelqu'un qui ne nous inspire pas confiance. Saint Joseph a obéi en comprenant que ce que Dieu nous demande est bon pour nous, et donc on peut lui faire confiance. Et quatrième songe, il y a un petit détail que relève le pape et que je trouve aussi très intéressant. Donc, quatrième songe de Joseph, c'est pendant qu'il rentre d'Égypte, au retour d'Égypte, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, Joseph eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. C'est un très petit détail, mais que je trouve très instructif. Mais Joseph eut peur de s'y rendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les songes que reçoit Joseph ne suppriment pas ses émotions. Elles ne suppriment pas son jugement, ne suppriment pas son raisonnement. Joseph a eu peur et c'est ensuite qu'il a reçu un songe. Ça montre que le Seigneur ne nous téléguide pas. Le Seigneur respecte infiniment notre liberté, notre ingéniosité. Saint Joseph a eu des songes, mais le Seigneur ne lui disait pas avec quel âne il devait partir, à quelle heure, par quel chemin, où serait le petit déjeuner du lendemain matin. Non, le Seigneur lui a demandé d'obéir, mais en lui laissant une grande place à sa liberté, à son ingéniosité. Donc, Père dans l'obéissance.
La quatrième facette, c'est Père
dans l'accueil. Père dans l'accueil. Le Saint-Père remarque que souvent, Saint-Joseph n'a pas compris ce qui lui arrivait. Donc je cite ce que dit le pape. Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive, et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille. La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. Ça aussi, je pense que c'est très bon de réentendre pendant le carême. Pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. Comme on a besoin de l'entendre dire. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, hein, on le sait bien, hein, on a tendance à essayer de le comprendre, à l'expliquer, avant même d'accueillir ce qui nous arrive, avant même d'accueillir la réalité. Et je pense d'autant plus dans ce monde tellement marqué par les images, par les films. Vous savez, vous regardez un film, c'est cohérent. Il y a un début, il y a une intrigue, il y a une histoire, et c'est cohérent. Et du coup, l'explication nous est d'habitude évidente. On la comprend, du moins. C'est une explication humaine, parce qu'un film, c'est une œuvre humaine, c'est une logique humaine. Et nous, on est très marqués par ça, et on a envie de tout comprendre dans nos vies. Saint Joseph nous montre que, avant de chercher à comprendre, il faut accueillir. Avant de chercher à expliquer, eh bien, accueillons ce qui nous est donné. La vie chrétienne est d'abord accueillir ce qui nous est donné. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut rien chercher à comprendre. Non, Saint Joseph a cherché. Mais il a cherché à comprendre dans un regard de foi. Et le regard de foi, d'abord, accueille. Je cite encore le pape François, toujours dans le même passage. Joseph n'est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est et de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. Oui, Joseph n'est pas résigné, il est engagé, mais il accueille ce qui lui est donné en faisant place à cette partie qui n'est pas immédiatement explicable. Et le Saint-Père de continuer, le réalisme chrétien qui ne rejette rien de ce qui existe revient encore une fois. Voilà, c'est ça le vrai réalisme. C'est pas de rien comprendre, c'est pas de tout expliquer, c'est d'accueillir et, dans un regard de foi, coopérer à ce que le Seigneur veut nous dire. Mais c'est d'abord accueillir. Et le Saint-Père cite ensuite cette phrase de Saint Paul que nous aimons beaucoup, hein, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout concourt à notre bien. Accueillons ce qui nous est donné dans un regard de foi avant de chercher à comprendre. Dans cette perspective, la foi donne un sens à tout événement, heureux ou triste, dit le pape. Voilà, et Joseph l'a très bien compris. Quoi qu'il arrive, tout concourt au bien de ceux qui cherchent Dieu. Accueillons-le et dans un regard de foi, nous comprendrons ce dessein de Dieu. Donc Joseph, un père qui accueille. Le cinquième point, et qui est vraiment la même facette que le fait d'accueillir, c'est Joseph, père au courage créatif. Oui, ce sont deux choses à ne pas séparer. Accueillir et en même temps être inventif, avoir ce courage créatif. Alors le Saint-Père reprend l'épisode de la vie de Joseph à Bethléem, donc la naissance de Jésus, et il nous dit « Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l'arrange afin qu'elle devienne autant que possible un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. » Il nous rappelle cet épisode où Joseph a dû déployer sa créativité, son ingéniosité, sa fantaisie, son intelligence pour faire en sorte que le Fils de Dieu puisse naître. Voilà. Et il a réussi à transformer cette pauvre étable en lieu digne du Seigneur. Et vous voyez, la manière dont le pape formule est vraiment très... Enfin, je trouve ça admirable. Le pape nous dit « Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme. » Qui est-ce qui intervient? C'est le ciel, nous dit le pape François. Le ciel intervient, mais par Joseph. C'est Joseph qui, avec ses capacités humaines, avec son raisonnement, avec tout ce qu'il est, a fait en sorte d'agir, mais à travers lui, c'est le ciel qui intervient, nous dit le pape François. Le Seigneur intervient par notre créativité, par nos actions, par notre ingéniosité, par ce que nous pouvons déployer. Et alors là, s'il fallait choisir un passage de cette lettre, je pense que c'est celui-là que je calligraphierais. Le Saint-Père nous dit « Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance, qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. » Assez extraordinaire. On a tous des moments dans notre vie où on se dit « je comprends pas, ça marche pas, j'appelle, je fais des... » Non, mais le Saint-Père nous dit, à la suite de Saint-Joseph, que si le Seigneur ne nous répond pas, c'est peut-être parce qu'il fait confiance à notre capacité de projeter, inventer, trouver. Le Seigneur a mis une immense confiance dans Saint-Joseph, dans sa capacité de... dans sa capacité humaine, de mettre toute sa personne humaine au service du Fils de Dieu et de la Sainte Famille. Donc c'est vrai pour nous aussi. Demandons à Saint-Joseph de nous apprendre à ce regard de foi sur ce qui nous arrive et sur notre créativité. De voir que le Seigneur nous donne un signe de son amour, parfois, lorsqu'il nous renvoie à notre responsabilité. Il ne fera pas les choses à notre place. Et ces signes de son amour et de sa confiance pour nous, de nous laisser faire ce qui nous revient. Donc, Joseph, père au courage créatif. Un peu dans le même ordre d'idée, c'est la prochaine petite facette. Joseph, père travailleur. Donc on connaît bien que Saint-Joseph, patron des travailleurs, on l'entend bien, c'est davantage la fête du 1er mai qui met cela en lumière, Joseph, patron de tous les travailleurs. Et le Saint-Père nous dit, Saint-Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail. Le travail de Saint-Joseph nous rappelle que Dieu lui-même, fait homme, n'a pas dédaigné de travailler. Alors, premier enseignement pour nous du travail de Saint-Joseph, c'est simplement le fait qu'il a travaillé. Il n'a pas dédaigné de travailler et il a enseigné cela au Fils de Dieu, à Jésus. C'est bon pour nous aussi, on passe quand même beaucoup d'heures à travailler. Et de nous rappeler que ce travail... est voulu par Dieu. Le travail est bon. Vous savez, ce n'est pas seulement une conséquence du péché, mais c'est voulu par Dieu. Dans le livre de la Genèse, le Seigneur demande à l'homme de travailler la terre, même avant la chute, même avant le premier péché. Le travail est voulu par Dieu. Et ça, Saint Joseph nous le montre. Le pape commence. Le travail est participation à l'œuvre même du salut, occasion pour hâter l'avènement du royaume, développer les potentialités et qualités personnelles en les mettant au service de la société et de la communion. La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. Regardez notre travail comme ce lieu où je coopère à l'œuvre du salut, où je coopère à l'œuvre de Dieu. Demandez à Saint-Joseph de regarder notre travail comme une coopération à l'œuvre de Dieu. C'est vrai que le Seigneur, s'il avait voulu, il aurait pu avoir une création achevée, parfaite, vous voyez. Mais non, il a voulu laisser à l'homme, il a voulu nous laisser une place, une coopération. Et on sait très bien que sans notre travail, on ne survivrait pas. On n'aurait pas de quoi se vêtir, on n'aurait pas de quoi manger, on ne survivrait pas. Mais ça a été voulu par le plan de Dieu qui a laissé à l'homme la responsabilité d'accomplir sa création, de la parfaire, de la parachever. On a beaucoup à réfléchir là-dessus, je pense. ça donne un sens tout de suite différent à tous nos travaux, que ce soit les petites tâches quotidiennes de sortir la poubelle, enfin de tout ce que vous voulez, ou des travaux beaucoup plus nobles. Mais tous nos travaux sont, d'une manière ou d'une autre, le moyen de coopérer à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de sa création. C'est un vieux moine, une fois, qui nous avait dit ça. N'oubliez jamais que Dieu est plus père qu'artiste. Dieu est plus père qu'artiste. C'est vrai, un artiste, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas le déranger quand il est à l'œuvre. Parce qu'il maîtrise tout, il sait très bien ce qu'il doit faire, il ne faut surtout pas le déranger. C'est lui qui a toutes les manettes, c'est lui qui maîtrise son œuvre. Dieu est plus père qu'artiste. Dieu n'est pas un Dieu qui aurait ficelé toute sa création. Mais Dieu est plus père. Vous savez, vous qui êtes parents, sans doute parmi vous, il y a beaucoup de parents, vous savez qu'à vos enfants, il faut leur laisser un petit quelque chose à faire. Vous faites le gros du travail, vous êtes à la cuisine, vous faites le gros du travail, mais vous laissez à vos enfants ce qui est à leur mesure, juste pour qu'ils aient la joie d'avoir coopéré au déjeuner que vous êtes en train de préparer. Dieu est plus père qu'artiste. Il nous laisse, par notre travail, notre petite part pour coopérer à l'œuvre immense de sa création. À l'œuvre de sa création et à l'œuvre de sa recréation, c'est vrai aussi. Coopérer à l'œuvre du salut. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose là qui doit nous émerveiller et qu'on doit demander à Saint Joseph de vivre comme lui l'a vécu. Vivre tout notre travail comme un lieu de communion avec le Seigneur, parce que nous partageons, nous coopérons à son œuvre. Alors, la dernière petite facette que propose le pape, c'est Père dans l'ombre. Père dans l'ombre. Donc c'est un titre, Père dans l'ombre, qu'il a repris au titre d'un écrivain polonais. Alors je suis vraiment désolée de prononcer son nom d'une manière qui est sans doute autre qu'il ne se reconnaîtrait pas en m'écoutant, mais... un écrivain polonais, Jan Dobraszynski, qui a écrit donc un roman, L'ombre du Père, un roman qui parle de Saint Joseph. Et l'idée maîtresse est, paraît-il, que Joseph a été pour Jésus l'ombre sur la terre du Père Céleste, dans le sens où Saint Joseph le gardait, le protégeait, mais ne s'est jamais détaché de lui. Il a suivi chacun de ses pas. Vous voyez, Saint Joseph comme l'ombre du Père des cieux auprès de Jésus. Donc c'est imagé. Mais ça nous montre bien ce rôle à la fois très présent, l'ombre ne nous quitte jamais, et à la fois très discret. Saint Joseph est un père dans l'ombre. Et c'est l'occasion pour le pape François de faire une longue méditation sur la paternité. Donc vous irez lire, surtout les papas de cette assemblée, une belle méditation sur la paternité de Saint Joseph. Qu'est-ce que c'est qu'être père ? Alors, je vais sélectionner simplement un aspect de ce que nous dit le pape François et qui, je pense, peut nous intéresser tous, les papas et les papapas. Le pape nous dit « Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ. C'est pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de très chaste. » Alors, Joseph est père, mais ce père très chaste, et le pape va ensuite expliquer. Donc, très chaste, ce n'est pas une indication simplement affective, mais c'est la synthèse d'une attitude qui exprime le contraire de la possession. La chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. C'est seulement quand l'amour est chaste qu'il est vraiment amour. Et puis je saute un petit peu. La logique de l'amour est toujours une logique de liberté. Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s'est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Saint Joseph, qui est un père dans l'ombre, qui est un père très chaste, dans le sens où voilà, cet amour qu'il avait pour Jésus, qu'il avait pour la Vierge Marie, a a eu comme conséquence, vous voyez, cette humilité, cette chasteté, cette liberté dans l'amour, le contraire de la possession. L'amour qui veut posséder devient toujours à la fin dangereux, parce qu'il étouffe, il emprisonne, nous rappelle le pape. Et puis, conséquence de cet amour chaste, de cet amour qui n'emprisonne pas, mais qui laisse l'autre libre, le pape nous dit, le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. Joseph a sans doute dû faire des sacrifices, vous voyez, de partir en Égypte, de devoir faire accoucher sa femme dans une étape, enfin, tout au long de sa vie, il a fait des sacrifices. Mais son bonheur a été de ne pas rester dans cette logique du sacrifice, mais de faire de ces occasions difficiles une occasion de don de soi. Le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice, mais du don de soi. Et le pape montre que c'est vrai pour toutes les vocations. Toute vraie vocation naît du don de soi, qui est la maturation du simple sacrifice. Ce type de maturité est demandé même dans le sacerdoce et dans la vie consacrée. Là où une vocation matrimoniale, célibataire ou virginale n'arrive pas à la maturation du don de soi, en s'arrêtant seulement à la logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire signe de la beauté et de la joie de l'amour, elle risque d'exprimer malheur, tristesse et frustration. Et ça, c'est une magnifique lumière aussi pour notre carême. On sait que pendant le carême, on est appelé à faire des petits sacrifices. Et le grand danger, le grand risque, c'est d'en rester là, de faire des sacrifices qui nous coûtent. C'est très bien, mais voilà, Joseph nous enseigne à en faire un lieu de don de soi. On peut peut-être demander cette grâce, de dire, écoute, Seigneur, apprends-moi à faire que toutes ces petites résolutions de carême, j'en fasse un lieu de don de moi-même. Ça me coûte, oui, mais c'est signe de l'amour, signe de la beauté et de la joie de l'amour. Saint Joseph, je pense pour ça, est maître, il est plus que maître, il est père. Donc demandons-lui de nous aider à vivre nos petits sacrifices de carême comme une occasion de nous donner, de faire grandir l'amour. Voilà, donc vous voyez, on est arrivé au bout de cette petite facette de la personne, de personnalité, je ne sais pas comment dire, de Saint Joseph. Alors, le but, c'était juste de vous donner envie d'aller lire le texte du pape. J'espère que j'y sois plus ou moins arrivée. Je ne sais pas quelle est votre impression, parce que c'est vrai que c'est un petit peu impressionniste, là, cette petite facette. On a envie de dire, oh là là, mais il y a beaucoup de pain sur la planche, j'ai de quoi faire, je ne sais pas par quel bout commencer. Sans doute, c'est vrai, parce que la figure de Joseph est très riche, donc ça nous inspire beaucoup, il y a beaucoup de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ça nous est révélé, ça nous est donné. Vous savez, le Seigneur ne nous révèle rien sans qu'il ne nous le donne en même temps. Et j'ai envie de dire que Saint Joseph est justement donné pour ça. Comme je le disais tout à l'heure, Joseph, c'est sans doute le moins saint de la Sainte Famille, mais c'est celui qui a compris que ses limites, ses imperfections, le fait qu'il soit pécheur, ne l'empêche pas d'être membre de la Sainte Famille, ne l'empêche pas de participer au plan du salut de Dieu, et même que le Seigneur a pour lui une responsabilité, a pour lui quelque chose de... Enfin, vous voyez, il l'intègre dans ce plan. Saint Joseph a compris que malgré ses faiblesses, malgré ses limites, le plan de Dieu, le plan de salut est possible. Il est possible pour moi. Et Saint Joseph nous le dit à nous aussi personnellement. Ça a été possible pour moi, Saint Joseph, mais c'est possible pour toi. Tout ce qui est révélé est à ta hauteur. Alors, avec la grâce de Dieu, évidemment, mais c'est possible. Alors, c'est une question, comme on l'a vu, une question d'obéissance, une question d'accueil, une question de créativité, une question. Voilà, mais c'est possible. Et tout ce que Saint Joseph a vécu, d'une certaine manière, c'est pour nous. Voilà, je vous disais au début, essayons de personnellement de voir comment est-ce que ça nous inspire concrètement. Ça nous est donné. Alors aujourd'hui, nous fêtons le dimanche de l'étaré, le dimanche de la joie. Donc réjouissons-nous. On se prépare aussi à cette joie de la fête de Saint Joseph vendredi, mais réjouissons-nous parce que ça nous est donné. La sainteté de Joseph est pour nous. C'est un exemple, c'est une intercession pour que nous aussi, nous fassions de notre vie quelque chose de bon, quelque chose de grand. Voilà. Le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice, mais du don de soi. Et je cite encore une fois le pape François, à la fin de sa lettre, qui nous dit « Le but de cette lettre apostolique est de faire grandir l'amour envers ce grand saint, pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. » Les cloches nous appellent et je vous propose de tourner vers Saint Joseph encore une fois, avec la prière « Je vous salue Joseph » que vous connaissez peut-être, qui est récitée en particulier à Cotignac. « Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du